grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Ils sont partout, ils nous rendent mille et un services et ils ont pris le pouvoir dans notre vie quotidienne hyper connectée, qu'il s'agisse de nos habitudes de consommation, de nos choix culturels, de notre vie amoureuse, amicale, professionnelle, de nos loisirs. Les algorithmes mettent nos existences en équation pour décoder nos comportements, anticiper nos besoins, nous accompagner dans tous les pans de notre existence. Ces programmes informatiques s'immiscent partout, localisation GPS, proposition de séries à regarder, regarder sur Netflix ou Amazon Prime, choix d'un partenaire sexuel sur une appli de rencontre, programmation d'un robot cuiseur, recommandation d'achat sur des sites comme Amazon ou Fnac.com, gestion de notre réseau social. Mais quel danger représentent ces algorithmes dont on ne peut plus se passer? Avons-nous vraiment conscience que ces algorithmes influencent nos vies sans que nous le sachions toujours? Avons-nous raison de leur accorder une confiance quasi aveugle? Et puis nous verrons pourquoi ces algorithmes peuvent à terme accentuer les inégalités sociales. Bref, les algorithmes représentent-ils une bombe à retardement comme le prophétise notre invitée, la mathématicienne américaine Cathy O'Neill. Avec nous également ce matin, le journaliste et réalisateur de documentaires Thomas Huchon qui anime la chaîne YouTube Thomas contre les GAFA. Vous pouvez réagir ce matin sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Le prof de philo de Grand Bien Vous Fasse. Vous avez un tas de questions à poser à nos invités ce matin.
Oui, parce qu'il y a cette question de la tyrannie des algorithmes et donc de quelle tyrannie il s'agit et qu'est-ce qu'on peut faire contre cette tyrannie. On y revient dans l'émission.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bienvenue sur Google Home. Pour commencer, téléchargez l'appli Google Home sur votre téléphone ou votre tablette.
Dis Siri, en quelle année Napoléon Ier a-t-il été sacré empereur?
Je ne peux pas vous donner la réponse sur HomePod.
Ok Google. Parlez à Oui SNCF.
Bien sûr. Voici Oui SNCF.
Bonjour. Avec moi, tu peux consulter le prix d'un billet de train, les horaires, les prochains départs, et tout ça, sans les mains.
Dis Siri, raconte-moi une blague.
Soyons sérieux.
Ok Google, est-ce que tu m'espionnes?
Votre sécurité est la priorité de Google. Il est important que Google protège vos données personnelles, que vous en gardiez le contrôle.
Un mix de quelques assistants vocaux qui en savent beaucoup sur nous grâce à leurs algorithmes de plus en plus performants. Bonjour nos invités, Cathy O'Neill, bonjour. Hello. Vous êtes mathématicienne, diplômée de l'université Harvard. Vous êtes également data scientifique, militante au sein du mouvement Occupy Wall Street. Et vous publiez aux arènes Algorithme, la bombe à retardement. Alors, Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, considère que votre livre est un livre fascinant et profondément perturbant. Et pour le Financial Times, il s'agit du manuel de survie du citoyen du XXIe siècle. Alors, avant de comprendre pourquoi il est nécessaire de lire votre livre, pouvez-vous expliquer ce qu'est un algorithme à un enfant de 10 ans?
Sure. And thank you for having me.
Tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir ce matin.
L'algorithme,
c'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans notre tête. Et ce n'est pas quelque chose qui appartient à une formule mathématique compliquée et qu'on ne comprendrait pas. L'algorithme utilise des informations historiques pour faire une prévision du succès. Et donc, ça veut dire que si quelque chose a fonctionné dans le passé, ça veut dire que quelque chose de similaire va fonctionner dans le futur. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, que tout le monde peut comprendre. Je prépare le dîner pour mes enfants. J'ai 3 enfants, 3 garçons, et j'ai un mari qui est un piètre cuisinier. Et je vais donc cuisiner le repas en fonction de ces données et en fonction de ce que je sais qui va fonctionner pour le repas. Voilà, je vais faire le repas, et puis après, je vais décider si ça a fonctionné ou pas. Évidemment, mon fils qui a 10 ans, il a une obsession. C'est le Nutella. Donc, il faut qu'il mange du Nutella. Mais ma définition à moi de quelque chose de réussi, c'est faire que mes enfants mangent des légumes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est, on va dire, des définitions très différentes de ce qu'est la réussite. Et ce que je veux mettre en évidence par rapport à ça, c'est que d'abord, ce qui est important, c'est votre définition de la réussite. Parce que si je prends en fait l'algorithme, ça veut dire que je vais écrire des formules et je vais en fait mettre ça dans un ordinateur. Ça va pas forcément être facile, mais je vais donc optimiser en fait les algorithmes en fonction de ma définition de la réussite, qui est là de faire manger des légumes. Et donc, ça va évidemment permettre de faire un nombre de repas extrêmement différent que si on suivait la définition du succès de mon fils. Donc c'est vraiment la définition de la réussite qui va définir l'algorithme. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, mon fils, il n'a pas vraiment son mot à dire sur ce qui est réussi ou pas, parce que c'est moi, en fait, qui ai le pouvoir. Donc en général, il faut bien sûr toujours considérer l'algorithme comme un système qui est optimisé pour une définition de la réussite qu'on ne connaît pas forcément et qui est celle des gens qui ont le pouvoir.
Alors, si je vous ai bien compris, un algorithme, c'est donc une suite d'opérations ou d'instructions qui permettent de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Alors, algorithme, c'est un mot compliqué qui pourrait peut-être rebuter les allergiques aux maths et qui pourrait se dire que votre livre ou que cette émission ne les concerne pas du tout.
That's actually very true, first of all.
Alors, c'est très vrai, effectivement, mais je dirais que de manière plus large, en fait, cette révolution du big data, je dirais qu'il n'y a pas eu un but explicite quand ça a commencé, mais en tout cas, c'est un mécanisme très utile pour intimider les gens, parce qu'une fois que les gens sont intimidés par les mathématiques, d'une certaine manière, ils ne demandent plus leurs droits. Et je crois que, effectivement, ça peut faire peur, mais la vérité, c'est que les algorithmes peuvent être utilisés comme des armes, et ils le sont souvent, d'ailleurs. Et je dirais que la première arme de l'algorithme, c'est l'intimidation mathématique, c'est-à-dire que les gens ne vont pas oser poser des questions sur le process qui est derrière l'algorithme.
Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les data ?
Big data is
alors, les big data, les données, en fait, grandes données, c'est effectivement ce qui va être la collection d'informations, ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, quel est votre type de téléphone, quel type de recherche vous avez fait sur Google, combien de fois vous appelez. Donc, en fait, les big data, c'est la compilation de toutes ces informations. Et donc, ça permet de avoir des informations sur qui sont les gens. Ça veut dire que si vous achetez certaines choses sur Internet, si vous dites des choses particulières sur les réseaux sociaux, eh bien, les big data, ils vont vous permettre de voir pour qui vous allez voter, quel type de musique vous aimez, vont permettre de dire, en fait, quel type d'achat vous allez faire. Ça permet de voir, effectivement, à quel point vous êtes vulnérable au marketing, et dont le marketing politique, Donc, c'est une manière, en fait, les big data, de réutiliser des informations qui n'ont pas l'air si importantes que ça, mais qui vont permettre de, d'une certaine manière, définir qui vous êtes. Et évidemment, on voit la race, la sexualité, le sexe, c'est des choses faciles, mais après, il y a tous les comportements, en fait. Alors après, il y a effectivement comment les big data sont liés au marketing. Et c'est l'idée que d'une certaine manière, ces algorithmes vont être au-delà des partis pris humains. Ça veut dire que les algorithmes rendront les choses justes et objectives. Et ça veut dire, on a l'idée que si on remplace un humain par un algorithme, d'une certaine manière, l'algorithme sera plus objectif, avec moins de partis pris. Et je dirais que ça, c'est un élément marketing des big data. Mais ça a à voir avec le fait qu'avec toutes ces informations, on peut, d'une certaine manière, clarifier et mathématiser le monde.
Alors, Cathy O'Neill, vous avez constaté le pouvoir destructeur des modèles mathématiques appliqués à la finance. Vous avez travaillé à Wall Street, vous étiez en charge de la prédiction des tendances financières à l'aide de ces fameux algorithmes. C'est à ce moment-là que vous avez eu une prise de conscience sur le fait que les algorithmes pouvaient se révéler dangereux dans nos sociétés démocratiques.
Right. So when I was working in finance,
alors oui, hein, quand je travaillais à Wall Street, je travaillais pour des hedge funds et on essayait donc de faire des anticipations du marché. Effectivement, ces algorithmes donc de bourse sur lesquels je travaillais doivent normalement marcher, hein, bien sûr, puisque si ça marche pas, on va perdre de l'argent. Mais il y a d'autres algorithmes dans la finance qui, d'une certaine manière, sont prévus en fait pour échouer. Et c'est des algorithmes de risque. Hein. Et si ces algorithmes de risque doivent effectivement échouer, c'est parce que personne ne veut savoir que sont les risques, en fait. Et il y a effectivement un ratio entre combien d'argent on fait par rapport aux risques qui existent. Et donc, on voulait que les risques, bien sûr, soient sous-estimés. Hein. Ça veut dire qu'on a quand on a une industrie qui est heureuse de mauvais algorithmes, et l'exemple le plus extrême et le plus connu hein, de cette corruption-là de la question du risque, c'est des algorithmes qui venaient donc effectivement de tout ce qui avait à voir avec les hypothèques. Hein. Et évidemment, je reviens évidemment à cette question du côté intimidant des algorithmes, qui faisait que les gens, d'une certaine manière, allaient acheter ces hypothèques parce qu'ils avaient confiance dans l'évaluation des risques que permettaient les algorithmes.
Dans votre livre, Cathy O'Neill, vous comparez certains algorithmes à des armes de destruction mathématique. Vous pouvez nous expliquer, nous éclairer ?
Alors, je vais vous donner ma définition des armes de destruction mathématique. C'est-à-dire, ce sont des algorithmes importants qui permettent de noter les gens sur des choses importantes, c'est-à-dire est-ce que les gens méritent d'avoir un boulot, est-ce qu'ils méritent d'aller à l'université, d'avoir une carte de crédit, combien vous allez payer pour votre assurance santé. Hein. Ces choses-là, en fait, permettent de calculer. Après, c'est secret, tout ça, bien sûr. Et évidemment, si on ne sait pas quel est le calcul à la base, on ne peut pas faire appel et les gens sont donc absolument sans défense face aux notes qui leur sont accordées. Hein. Et la troisième chose, c'est bien sûr, le plus souvent, c'est injuste. C'est-à-dire que les gens se voient écartés d'un certain nombre de possibilités, tout simplement parce qu'on pense qu'ils ne les méritent pas.
Question de notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, bonjour Cathy O'Neill. En fait, je suis assez fasciné en vous écoutant parce que j'apprends énormément de choses. Et je me dis que finalement, par rapport au temps que nous passons aujourd'hui à fréquenter ce monde numérique, nous avons assez peu de connaissances précises sur ce monde numérique. Qui sait précisément ce que c'est qu'un algorithme ? On vient de là en avoir une définition plus précise, mais le code, le référencement, le tracking, le stockage dans des clouds. Bref, nos téléphones sont de plus en plus perfectionnés, nos ordinateurs aussi, mais on ne sait pas encore toujours précisément comment ça fonctionne convenablement. Par exemple, comment est-ce que vous savez, Ali, comment est-ce que les moteurs de recherche classent nos recherches, les page ranking aux résultats, alors qu'on l'utilise quasiment toute la journée. D'où cette première question pour vous, Cathy O'Neill. Finalement, cette tyrannie des algorithmes ou la possibilité pour que les algorithmes deviennent des armes, est-ce qu'elle repose pas sur notre ignorance aussi ? Notre ignorance complice. Est-ce qu'on n'est pas complice de ce pouvoir des algorithmes si on en est ignorant du fonctionnement ?
That's a great question. Yeah, I absolutely think.
Très très bonne question. Hein. Et je pense qu'effectivement une grande partie du pouvoir qu'on donne aux algorithmes, c'est ça vient simplement de la confiance qu'on leur accorde. Je travaillais dans la finance et après je suis passée à Occupy Wall Street et puis ensuite j'ai eu donc ce boulot en fait. Voilà, au lieu de prédire des marchés quand j'étais à Wall Street, je faisais des prévisions sur les humains pour Occupy Wall Street. Et j'ai vu, en fait, hein, les désastres causés par les mathématiques. J'ai vu la souffrance des gens, comment les gens perdaient leur maison et comment personne ne les aidait, en fait. Hein. Les banques ne s'en souciaient pas et j'étais dégoûtée par ça. J'ai voulu faire quelque chose et j'ai travaillé donc sur la construction de ces algorithmes pour aider les gens et j'ai réalisé que ceux-ci échouaient également, mais de manière invisible. Ils échouaient au niveau individuel, malgré le fait que des gens qui perdaient leur boulot, quand on leur disait « vous allez perdre votre travail parce que vous avez une note secrète qui est mauvaise », même quand ils demandaient « mais comment est-ce que cette note a été accordée ?» et les gens répondaient toujours « non, non, mais c'est des maths, vous n'allez rien comprendre ». Et même des gens qui avaient perdu leur boulot et qui ne croyaient pas les algorithmes, la société faisait confiance à ces algorithmes et disait en général « mais de toute façon, il faut que tu acceptes ta note, donc il faut que tu acceptes ce qui t'arrive ». Et donc, il y a effectivement cette ligne de confiance qui est, c'est pas seulement quelque chose qui est dommageable pour l'individu, c'est quelque chose qui est dommageable en général pour la société. On croit ces notes, et je crois que c'est simplement parce qu'en général, on croit les mathématiques et qu'il n'y a rien d'autre d'une certaine manière qui est aussi digne de confiance que les mathématiques. Et je me dis que cette confiance est un énorme obstacle, et je me dis que si on pouvait effectivement mettre en question cette confiance aveugle, on pourrait remettre en question les algorithmes également.
Thomas Huchon, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires et vous animez la chaîne YouTube Thomas contre les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Apple, Facebook. Vous avez pris beaucoup de notes depuis le début de l'émission.
Effectivement, c'est fascinant d'entendre Cathy O'Neill nous expliquer à la fois ce que sont les algorithmes, les implications, et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces questions. Mais c'est aussi l'habitude de votre émission. Et je crois que dire aujourd'hui que les citoyens sont quelque part complices de la situation dans laquelle on se trouve, il y a une part de vérité. Bien entendu que notre utilisation, nos comportements individuels nourrissent ces bases de données, permettent d'améliorer ces algorithmes, permettent aux GAFA et à tous les acteurs de l'Internet de prendre de plus en plus de pouvoir sur nous. Mais il y a quand même une autre partie de la médaille, il y a un revers de cette médaille. Le revers, c'est que l'immense majorité des choses que nous vivons sur Internet sont faites à l'insu des informations que nous avons laissées. C'est-à-dire que, par exemple, on ne se rend pas compte quand on s'inscrit sur un réseau social qu'on va pouvoir tirer de très petites informations qui paraissent anodines des conclusions très importantes et notamment sur nos comportements. Et donc, tout ce savoir sur les êtres humains, tout ce savoir sur les comportements, ce qui va permettre en appuyant un tout petit peu sur un bouton plutôt qu'un autre de modifier ce que va faire un être humain devant son ordinateur. Donc je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a à la fois la responsabilité des citoyens que nous sommes d'utiliser ces plateformes sans lire les conditions d'utilisation, par exemple, même si elles sont très compliquées à lire, on devrait quand même essayer de les lire. Et il y a d'un autre côté des multinationales qui ont une ambition économique très forte et qui utilisent toutes les armes à leur disposition pour arriver à leur fin. Leur fin, c'est quand même d'utiliser le maximum notre temps, d'utiliser nos clics, nos likes, d'utiliser notre attention, et donc d'être capable d'appuyer sur un certain nombre de leviers qui vont permettre d'utiliser ce temps. Si on se place comme ça dans une discussion en disant, je vais avoir plus d'informations sur mes amis, je vais avoir peut-être de meilleures informations pour partir en vacances. Ok, mais si on se place dans la société réelle, puisqu'Internet a aussi pénétré la démocratie, la politique, l'information, et qu'on arrive à déceler que quelqu'un a un petit peu d'inquiétude, des tendances à craindre tel ou tel type de personnalité, tel ou tel type de population, on va essayer de jouer dessus. Et on va peut-être, à la fin, arriver à envoyer des messages à tendance ou à caractère raciste ou homophobe à quelqu'un, parce qu'on sait qu'il est sensible à ces messages. Et on va modifier sa perception, modifier sa réalité et peut-être à la fin modifier son comportement et son vote. Donc ça pose quand même tout un tas de questions et il faut trouver de nouvelles manières de contrôler tout cet univers.
Réponse rapide de Cathy O'Neill.
Yeah, so you've brought up a bunch of interesting points.
I think that people do not understand. Oui, vous avez mis en avant un certain nombre de points intéressants. Je crois que les gens ne comprennent pas c'est ce que je parlais de cette réutilisation des informations. Je crois que les gens ne comprennent pas vraiment le pouvoir de ces GAFA une fois qu'on leur a montré nos comportements. effectivement, les gens sont toujours très, très surpris par ce que les GAFA savent de nous, comment ils récupèrent toutes ces infos sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on n'est pas totalement, effectivement, conscient du pouvoir qu'ils ont. Mais il y a une petite chose sur laquelle je voudrais insister. Je suis d'accord sur le fait qu'on collabore d'une certaine manière, on est complice parce qu'on accorde une confiance trop importante, mais je ne crois pas que ce soit une lutte individuelle, parce que finalement, ce que je voulais dire quand je parlais de l'algorithme du dîner, c'était de dire, c'est moi qui ai le pouvoir et c'est moi qui décide en fait. C'est-à-dire que le pouvoir ne me permet pas seulement de prévoir le futur, il me permet de le faire advenir. Et du coup, quand on parle de ces multinationales et des algorithmes de ces multinationales du multimédia, c'est-à-dire qu'elles ne font pas seulement de la prédiction, elles causent aussi ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que, par exemple, ils donnent des cartes de crédit seulement aux gens qui ont leur semble avoir les moyens. Ces algorithmes permettent de décider qui mérite avoir un boulot. Et c'est à ces gens-là qu'on va donner un boulot. Tout ça repose sur des bases mathématiques très précises.
Allez, vous pouvez réagir ce matin sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot. À la réalisation, Stéphanie Texier. Ooh. Léo, who are you?
Ok Google, est-ce que tu peux nous raconter une blague?
Une blague? C'est parti.
Grand bien vous fasse.
Quel est le crustacé le plus léger de la mer? La palourde.
Sur France Inter.
Un algorithme, ce n'est rien de plus qu'une suite d'instructions permettant de résoudre un problème. Un peu comme une recette de cuisine. Par exemple, si on donne à une machine cet ordre simple, fabrique un hamburger, elle aura besoin d'un algorithme, une recette de cuisine. Avec les mêmes ingrédients, on fabriquera toujours le même hamburger. Mais si le problème posé devient plus complexe, par exemple, rassasier une personne, il faut que l'algorithme soit lui aussi plus complexe. La machine doit aussi connaître la recette des frites, par exemple, et savoir comment réagir si la personne est végétarienne.
Et les algorithmes sont aussi capables d'apprendre. Ils peuvent établir des liens et faire des déductions. Par exemple, on sait grâce à eux que le samedi, les gens mangent moins de hamburgers, mais plus de frites.
Un extrait de Xenius sur Arte, et ce matin on s'intéresse à ces algorithmes qui influencent nos vies pour le meilleur et pour le pire, avec la mathématicienne Cathy O'Neill qui publie Algorithmes, la bombe à retardement, et avec le journaliste Thomas Huchon. Cathy O'Neill, je crois savoir que vous avez écrit ce livre lorsque vous étiez enceinte et que l'angoisse du futur vous a ouvert les yeux pour cet enfant à venir.
Well, my children were young, that's for sure.
Non, mes enfants étaient jeunes, hein, et c'est vrai que je m'inquiète pour le futur. Qu'on va laisser l'avenir pour nos enfants. Et je vois des algorithmes partout. Et ils ont remplacé les décisions bureaucratiques, particulièrement quand le processus est compliqué, quand c'est un sujet compliqué qu'on essaye d'éviter. Donc, effectivement, moi, je les ai appelés des armes de destruction mathématique, et l'une d'elles a été une arme à laquelle une amie qui enseignait a été confrontée, et par rapport à donc cette notation dont elle avait écopé. Voilà. Et donc, évidemment, en fonction de la note, vous pouviez ou pas perdre votre boulot. Donc, c'était effectivement un véritable enjeu, hein, et ça se passait dans tout le pays. Et donc, j'ai demandé à mon amie de se procurer la formule, en fait, de cet algorithme, parce que je suis mathématicienne. Donc je pouvais l'expliquer, et elle m'a répondu qu'elle avait demandé la formule et qu'on lui avait dit que non, elle n'aurait pas la capacité de comprendre la formule, donc c'était pas la peine de la lui donner. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas là, parce que on est des citoyens et on doit avoir la possibilité de demander, et parce qu'il y avait effectivement des enseignants dans la ville de New York qui avaient des mauvaises notes et qui se trouvaient à perdre leur boulot. Donc il y a un prof qui avait eu une très très mauvaise note, alors que c'était un prof qui était très expérimenté depuis 20 ans. Et une année, il avait eu 600, et l'année d'après, sans rien changer, il avait eu 96. Donc, d'une certaine manière, il y avait une preuve là que le système n'était pas très solide, pas très fiable. Et évidemment, c'était une manière d'évaluer les professeurs qui était quand même très mystérieuse d'une certaine manière. Hein. Effectivement, il fallait dire au syndicat d'enseignants que ce n'était pas un modèle qui était sain ni qui était solide. Hein. Et c'était la chose la plus importante, à mon avis. Et puis, la deuxième chose, c'est que, d'une certaine manière, personne au niveau de l'administration voulait savoir quelque chose là-dessus, parce que c'était tellement utile, en fait, hein, c'était très facile, et parce que effectivement, ça répondait à l'objectif premier qui était d'éviter qu'on parle de ça, hein. C'est-à-dire la question de fond, c'était qu'est-ce qui fait d'un enseignant un bon enseignant. Et évidemment, si vous avez 6 experts en éducation dans une même pièce et vous leur demandez d'écrire en fait les 6 points les plus importants pour un bon enseignant, ils vont pas être d'accord, hein. Mais au lieu de poser sur la table ce débat difficile, d'essayer de se mettre d'accord, à la place, on avait décidé de prendre un modèle mathématique, de concevoir un algorithme qui évitait de ne pas poser le débat sur la table et de
Alors l'algorithme, c'est un outil de prédiction, mais comment s'y prend-on pour prévoir l'avenir? C'est en analysant une grande quantité de données, en utilisant le big data, c'est ça? C'est comme ça qu'on prévoit l'avenir grâce aux algorithmes?
L'idée, une fois de plus, hein, c'est d'utiliser donc ces informations historiques pour essayer de prévoir la réussite. Je vais vous donner un autre exemple, en fait. L'un des systèmes les plus dangereux des algorithmes qui est développé actuellement, c'est celui qui est utilisé en ressources humaines, c'est-à-dire qui on va recruter. Hein. Et donc, c'est utilisé, évidemment, par des compagnies très importantes, hein, comme les centres d'appel, des gens donc comme Walmart et les grands distributeurs. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va permettre donc à l'entreprise de réussir? Ça, c'est la définition du succès. Évidemment, il faut être très précis quand on parle d'ordinateurs et quand on développe des algorithmes avec des ordinateurs. Ça veut dire qu'il faut d'abord définir ce qu'est le succès, très précisément. Hein. Donc, des gens qui, par exemple, sont restés longtemps dans le même emploi, parce que, évidemment, le turnover, ça a un coût, les gens qui ont des promotions et les gens qui ont des augmentations. Hein. Et on s'aperçoit que, voilà, les gens qui sont restés longtemps, etc. Et vous regardez, donc, pour essayer de définir, en fait, des modèles. Hein. Donc, qui a réussi par le passé, et donc vous allez prédire que les gens qui ressemblent à cette personne-là qui réussit vont pouvoir réussir exactement de la même manière. Et évidemment, s'il y avait des partis pris implicites par le passé, par exemple sur le sexe, sur la race, sur le handicap, hein, évidemment, ça, c'était à l'intérieur de la définition et donc à l'intérieur du modèle et de la donnée. Hein. Donc, évidemment, les femmes n'allaient pas être engagées parce qu'on verrait que les femmes n'avaient pas l'air d'avoir réussi par le passé. Ils vont dire, voilà, qui par le passé réussissait, et c'est ça qui va définir l'algorithme. Donc, l'algorithme, ça ne rend pas les choses justes. Ça permet de propager le statu quo, plutôt.
Thomas Huchon.
Bah, effectivement, je crois que Catiani nous a démontré avec son exemple l'un des vrais problèmes que pose l'algorithme quand on essaye de s'en servir à l'échelle d'une société. Est-ce que ces algorithmes doivent permettre d'améliorer la société? C'est ce que Catiani appelle le succès, hein, la vision du succès. Est-ce que ces algorithmes doivent permettre d'améliorer la société? Qu'est-ce que ça veut dire améliorer la société? Ou est-ce que ces algorithmes vont reproduire la société telle qu'elle est aujourd'hui? Et même si elle a beaucoup de qualités, elle a aussi un certain nombre de défauts, d'inégalités, de discriminations. Et donc, donner le pouvoir à des machines de calcul, des ordinateurs, de décider si on doit éliminer une inégalité ou une discrimination, ou la maintenir, voire même la renforcer, c'est déposséder les êtres humains de ce que nous avons de plus important, notre libre arbitre. C'est ça qui nous sépare réellement des animaux. C'est notre capacité à décider par nous-mêmes et à nous faire notre propre opinion. Sur les algorithmes, on est bien embêté parce que même si on voulait savoir ce qu'il y a dans les algorithmes, eh bien, ces algorithmes sont développés par des entreprises privées qui appliquent la protection intellectuelle de leur savoir. Et notamment, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola. Hein. Pour avoir l'algorithme de Google, et notamment de la recherche Google, il y a 47 critères. On ne sait pas quels sont ces critères, on ne sait pas comment ils interagissent entre eux, et donc on ne peut pas se faire cette propre opinion. Donc, est-ce que Google va améliorer la société ou est-ce qu'elle va maintenir les inégalités existantes, les renforcer? Essayez de faire quelques recherches sur Google, je pense que vous allez vous faire votre propre opinion.
Question de notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, les algorithmes ne sont pas neutres, c'est ce qu'on découvre donc à travers cette discussion. Un sociologue français, Dominique Cardon, a écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule « À quoi rêvent les algorithmes ?» et le titre m'a amusé parce que effectivement, on ne se doute pas que les algorithmes rêvent à quelque chose. Et notamment un article assez célèbre aussi de Dominique Cardon, À quoi rêve Google? Et en fait, ce que nous montre Dominique Cardon, c'est que quand on travaille précisément sur ces algorithmes, effectivement, ils ne sont pas neutres. Ça ne sont pas que des formules de calcul. Parce que, en fait, la manière dont ils vont classer, organiser, sélectionner sur des critères, eh bien, tout ça s'est orienté vers une intention particulière, ce qu'on appelait le succès ou la vision qui est portée par celui qui met en place l'algorithme. Alors en fait, on a l'impression que toute notre vie se trouve envahie par cette nouvelle rationalité instrumentale, c'est-à-dire par des calculs qui viennent comme des instruments prédire nos comportements. Question du coup pour Cathy O'Neill ou Thomas Huchon, est-ce qu'il y a la possibilité d'identifier dans nos vies des sortes de réserves, de zones dans lesquelles les algorithmes ne serviraient pas? On parlait de liberté, là, de libre arbitre, mais finalement, sur quoi nous replier?
Cathy O'Neill.
Dans votre question, Thibault, donc sur les poches de résistance.
First, I'd like to flatter
d'abord,
French people
voilà, j'aimerais
and Europeans
flatter
in general,
les Français et les Européens en général en disant que l'une des choses que je suis heureuse de voir ici, c'est une population éduquée et qui a des doutes sur la technologie. Et en ce sens-là, vous êtes bien plus avancé que les Américains.
Hein. Donc,
il y a bien sûr ici, avec la législation européenne, des tentatives de protéger les données privées. Malheureusement, le succès n'est pas aussi important sur les relations de pouvoir. Et je pense que c'est très bien de continuer à protéger les données individuelles en ligne. Mais voilà, beaucoup de choses, en fait, qui sont expliquées dans mon livre n'ont pas grand-chose à voir avec tout ce qui est sur Internet. Ça a à voir avec le pouvoir. Ça n'a pas vraiment à voir avec la vie privée. Et donc, lorsque vous vous confrontez à une entreprise puissante, ça n'a plus rien à voir avec ce qui est votre vie privée. Donc, je crois qu'il faut trouver des lois fédérales qui vont s'attaquer à ces questions-là.
Thomas Huchon, nous avons tous produit des milliards et des milliards de données qui évoquent nos vies, notre travail, nos achats, nos goûts sexuels, culturels, culinaires, nos liens d'amitié. Est-ce que ces algorithmes, ces data, en savent plus sur nous que notre famille, notre conjoint ou nos meilleurs amis?
C'est très difficile de répondre de manière totalement oui ou totalement non à votre question, mais ce qui est sûr, c'est que il existe une nouvelle science qui s'appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est l'étude des comportements humains et de ce qui va changer nos personnalités au travers justement de toutes ces données dont disposent les grands réseaux sociaux. On a eu un exemple assez récent, une entreprise anglo-américaine qui s'appelle Cambridge Analytica, qui a beaucoup travaillé pour essayer de prédire les comportements électoraux des citoyens. Et donc, ils se sont basés sur des études scientifiques qui montrent que, avec un certain nombre de likes pris sur vos réseaux sociaux, un algorithme est capable de prédire votre personnalité. Et que si on compare cet algorithme avec vos collègues, votre famille ou votre conjoint, l'algorithme est bien plus fort dans de nombreux cas. À partir de 10 likes sur votre profil Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. À partir de 100 likes, il vous connaît mieux que votre famille. À partir de 230 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Et vous, Ali, vous faites combien de likes par jour sur Facebook?
Zéro, parce que je ne suis pas sur Facebook à titre personnel. Cathy O'Neill, Facebook, c'est un réseau social qui peut donc manipuler, influencer le système politique. Environ 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, en France 38 millions d'utilisateurs mensuels, dont 22 millions actifs quotidiennement. L'une des grandes forces de Facebook et de ses algorithmes, c'est la capacité à nous utiliser pour influencer notre entourage. Et vous dites même que Facebook, vous le dites dans votre livre, a le pouvoir de façonner nos humeurs et nos émotions.
So there's really three things going on in Facebook, if you ask me.
Si vous me demandez mon avis, il y a trois choses qui se passent sur Facebook. La première, c'est la publicité. Quand ils décident donc de vous cibler avec une publicité, ils décident du sujet, ils décident de la présentation et évidemment, ils en savent plus sur moi que je ne sais sur eux et ils décident de ce qu'ils vont me montrer. C'est comme ça qu'ils me manipulent. Et ce n'est pas seulement vrai sur la politique, il y a de la pub sur des tas d'autres choses. Comment on peut avoir des crédits, comment on peut faire des paris. Ils savent qui est vulnérable, qui sont les joueurs avec des règles, les joueurs addicts. Ça, c'est le premier problème de Facebook, c'est-à-dire cette publicité ciblée. Le deuxième problème, c'est comment les choses nous arrivent par le fil d'information. Et ça dépend de l'algorithme de Facebook. Facebook. C'est-à-dire que Facebook décide de ce qu'ils vont nous montrer. Ils savent que l'information qui va nous toucher émotionnellement, qui va nous permettre d'être très très en colère, a bien plus de chances de nous faire rester sur Facebook. Et d'une certaine manière, évidemment, ça nous éloigne de la vérité. Hein. Et le troisième problème, effectivement, qu'on voit sur Facebook, c'est les humains. C'est-à-dire que les gens mettent des posts qui leur conviennent, voilà, et qui correspondent à leur parti pris. Et ça, je ne vois pas comment ça peut être réglé par Facebook ou par les réseaux sociaux. Je ne vois pas comment le parti pris humain pourrait être évité par les réseaux sociaux, quels qu'ils soient.
Allez, on poursuit notre conversation sur les algorithmes qui influencent nos vies. Vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook, la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Et on écoute Barbara Carlotti.
Dans la longueur vague du matin, le temps s'étire calme et soudain, une ligne claire, un long refrain, la mer.
Barbara Carlotti interprétée, Tu peux dormir.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
J'ai envie de vous raconter l'envers du décor, de cet univers qui vous semble familier, dans lequel vous vous sentez chez vous, confortable. Je parle de vos écrans, de vos smartphones, de vos tablettes, de vos montres et de vos enceintes connectées. Tous ces outils qui vous rendent la vie plus simple, plus cool, et qui vous permettent d'être en contact avec tous vos amis. Mais tous ces services, ils ont aussi leur part d'ombre. Afin de comprendre et décrypter justement cette part d'ombre, je vais vous parler des GAFA. Ces entreprises qui, il y a 20 ans, n'existaient pas ou presque, et qui aujourd'hui dominent le monde et surtout une grande partie de nos vies privées. Bon. Je vous le dis tout de suite, ce combat est largement déséquilibré. Moi, je suis tout seul. Et eux, en plus de disposer de milliards de dollars, ils disposent de milliards de clients. Mais ça ne nous fait pas peur. Surtout, ça m'empêchera pas de poser des questions et d'essayer de vous donner des solutions afin de vous protéger un peu mieux sur l'univers du digital.
Un extrait de Thomas contre les GAFA. Thomas Huchon, je rappelle que vous êtes journaliste, c'est vous qui avez réalisé cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en travers du chemin de Google, d'Apple, d'Amazon, de Facebook, ces fameux GAFA, ces géants d'Internet qui ont bâti leur fortune grâce à leurs produits et services en s'appuyant sur des algorithmes absolument performants?
Ben, écoutez, je crois que déjà, il y a beaucoup de chercheurs aux États-Unis, beaucoup de gens beaucoup plus intelligents qui ont travaillé là-dessus, notamment Cathy O'Neill, ses travaux. Moi, ça fait plusieurs années que je les suis, que je suis tout le travail qui est mené là-bas. Et effectivement, il y a une vraie question. Et le problème, moi, j'ai décidé d'alerter un petit peu les citoyens sur ces questions à force de découvrir dans la communication des GAFA toutes les choses pas correctes qu'elles faisaient, mais en fait, on les découvre quand elles nous disent qu'elles arrêtent. Un exemple très simple, à la fin de l'année 2017, Google annonce que Gmail, son service d'email, va arrêter de scanner les emails pour y déceler des informations et nous cibler avec des publicités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google arrête de lire nos mails. Oui, mais ça veut dire que depuis 14 ans, moi je suis sur Gmail depuis 2003, donc ça veut dire que depuis 14 ans, Google lisait mes mails. Donc il n'y avait pas un mec chez Google qui lisait mes mails, bien entendu, mais un algorithme avec une destinée publicitaire pour me cibler lisait mes mails et a lu tous mes mails depuis 14 ans. Ben, je pense que c'est pas acceptable, je pense que c'est pas possible, et qu'en fait, c'est devenu possible parce qu'on ne le sait pas. Le gros avantage qu'on a avec les GAFA, c'est que c'est pas des mastodontes comme l'Union soviétique ou des États impossibles à bouger. C'est des entreprises qui vont très vite, qui sont capables d'améliorer leurs services, qui sont capables d'évoluer, et surtout d'évoluer sous la contrainte du public. Donc je crois qu'il faut faire de la conscience chez nos concitoyens et essayer de comprendre un peu mieux cet univers. Les gens font ce qu'ils veulent après. S'ils veulent continuer à aller sur Facebook, Google et compagnie, ils continueront. Mais au moins, ils sauront où ils sont et ils sauront ce qui s'y passe.
Cathy O'Neill, je rappelle que vous êtes mathématicienne et que vous publiez Algorithme, la bombe à retardement.
Yeah, so I'm really glad that you're working on the stuff you're working
oui,
on.
Oui, je suis très heureuse que vous travailliez sur ces sujets-là et je pense que votre travail est une forme de militantisme parce qu'effectivement, vous gardez la trace en fait de toutes les mauvaises actions de ces multinationales. Mais je veux souligner que ce que j'ai vu. Quelque chose qui va contre la mobilité sociale. Hein. Ces algorithmes sont là à chaque étape de notre vie et séparent les chanceux des inchanceux. Voilà. Et c'est quelque chose qui a à voir avec la démographie, le sexe, l'argent, la race. Hein. Et ça sépare, en fait, ça prédit pas seulement le futur, comme je le disait, ça cause le futur, l'avenir, ça le provoque, hein, et ça sépare effectivement les chanceux des malchanceux. Hein, et voilà, et on parle donc de résistance, et c'est impossible d'imaginer que les gens qui souffrent le plus de ce système, hein, qui sont les plus pauvres, les personnes qui ont le moins de pouvoir, vont pouvoir résister de manière efficace. Hein. Ils n'ont même pas le temps, en fait. De réfléchir à tout ça. Et il faut qu'on réfléchisse à comment on va protéger les plus faibles, et cette révolution-là, elle ne se fera pas à un niveau individuel.
Thibaut de Saint-Maurice, question du philosophe.
Oui, au fond, je me demande si avec les algorithmes, on ne retrouve pas un débat plus large autour de l'innovation technique, technologique. On parle du nucléaire, par exemple. Le nucléaire, c'est à la fois une arme de destruction absolument incroyable, et en même temps, ça permet de soigner des cancers, et puis aussi de procurer de l'énergie à un moindre coût, ou en tout cas à un coût peut-être écologique un peu différent. Ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais algorithmes? Est-ce que il y a des algorithmes qui, par exemple, aident la médecine à faire des grands progrès, qui affinent les prévisions météo et qui permettent du coup de sauver des vies? Du coup, la question, c'est de savoir, on va entrer dans cette phase de régulation des algorithmes, régulation politique donc, mais au fond, est-ce que c'est pas le bon algorithme qui nous sauvera du mauvais algorithme?
Such a great question, and really,
c'est une question formidable.
The The sort of goal of my next 10 years of my life is to make this
le but des prochaines 10 années de ma vie, hein, c'est de dire très clairement que ce ne sont pas les algorithmes qui sont maléfiques ou qui sont diaboliques, c'est le contexte dans lequel on les utilise. Et c'est ça qui permet de augmenter les inégalités. Sur les algorithmes qui sont utilisés pour prévoir la récidive, hein, on voit bien que au lieu de dire voilà les gens qui sont en prison et dire voilà ces gens-là ont toutes les chances de récidiver, mais on pourrait utiliser le même algorithme et s'interroger pour dire mais pourquoi est-ce que ces minorités par exemple risquent de retourner en prison, et on pourrait se dire qu'on va les aider à trouver un emploi, etc. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de résoudre le problème, on le rend pire. Hein. Et donc, ça nous montre bien quel défi est le nôtre aujourd'hui face aux algorithmes. Et voilà, il faut arriver à faire travailler les algorithmes pour la société et pas contre.
Dernière question, Cathy O'Neill, Thomas Huchon. Est-ce que les algorithmes modifient en profondeur notre manière de vivre sous le règne des algorithmes prédictifs? Tout est calculé, paramétré, avec de moins en moins de place pour le hasard?
So I think if we want to be dystopic, which we're
Alors,
not,
bon, si on veut rentrer dans la dystopie, pourquoi pas, il faut regarder effectivement vers la Chine. Hein. Donc, en Chine, il y a des algorithmes qui sont faits pour le contrôle social. Et donc, le but, c'est de faire changer le comportement des gens parce que, voilà, les gens sont notés. Pas seulement les gens, mais les amis, les relations, et si les gens donc voilà sont fléchés comme étant déloyaux par rapport au Parti communiste, voilà, ça se passe pas très bien pour eux. Donc comme il faut réfléchir à comment on va éviter ça.
Comme dans un épisode de la série Black Mirror. Thomas Huchon, un mot de conclusion.
Mais je crois qu'on ne pourra plus se passer des algorithmes et qu'on n'arrivera pas à poser une règle qui fera qu'il y aura des bons ou des mauvais algorithmes. Par contre, je crois qu'on peut se poser la règle commune en tant que société, et même peut-être au niveau de l'Union européenne, eh bien qu'il faut que quelqu'un vérifie ce qu'il y a dans ces algorithmes. À partir du moment où on pourra savoir ce qu'il y a dedans, on pourra savoir comment ils fonctionnent et s'il y en a le besoin, s'en protéger ou au pire, eh bien les utiliser s'ils sont positifs et qu'ils servent à améliorer tout un tas de services dans nos sociétés.
Merci beaucoup Cathy O'Neill d'être venue à Paris. Algorithme, la bombe à retardement, c'est publié aux Arènes. Merci Thomas Huchon d'être passé. Je recommande également l'ouvrage Ma vie sous algorithme de Florence Pinault, publié chez Nathan. C'est destiné aux adolescents et ça m'a été très utile pour préparer cette émission. Et merci à la traduction de Pascal Fougère. Lundi, nous attendons toutes vos questions sur le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, buccale, génitale. Nous recevrons les docteurs Gabriel Perlmutter et Guillaume Font. Standard ouvert dès 9h au 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.